France Culture.
Tels sont vos bienfaits, vous les riches, vous ne donnez guère et vous exigez plus, telle est votre bonté, vous dépouillez même lorsque vous aidez. Voilà comment l'évêque Ambroise de Milan, à la fin du IVe siècle, qualifiait et condamnait de fait l'usure, car la pratique fait très tôt l'objet de l'attention de l'Église. Dès la fin de l'Antiquité tardive, toute une rhétorique se met en place pour renvoyer aux marges de la foi et de la communauté chrétienne cette pratique. Or l'usure ne consiste pas seulement à prêter avec intérêt, c'est tout un ensemble de comportements jugés néfastes, voire immoraux vis-à-vis de l'argent que l'Église entend réguler. Alors la figure de l'usurier est ainsi stigmatisée dès lors qu'elle s'apparente à celle de l'hérétique et la construction du lien entre ces deux entités honnies n'a de cesse que de se renforcer au cours des siècles. Alors pourquoi ce sont les petits porteurs qui sont considérés avec autant de méfiance quand les banques ont pignon sur rue? Pourquoi prêter avec intérêt est-il initialement considéré comme sacrilège? Entre conception théologique de l'argent et de ses usages, stigmatisation sociale et peut-être aussi vision macroéconomique avant l'heure de l'importance de mettre l'huile de la liquidité dans les rouages des économies nationales, Entendez-vous l'écho remonte aujourd'hui plusieurs siècles d'histoire économique dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Cassandre Puel et mise en ondes par Alexandre Dang et Chantal Nouvelot qui assure ce duplex depuis Lyon. Et deux invités sont avec nous à distance, donc depuis le studio de Radio France à Lyon aujourd'hui. Valentina Toneato, vous êtes maîtresse de conférences en histoire du Moyen-Âge à l'Université Lyon 2. Vous êtes l'autrice d'un ouvrage intitulé « Les banquiers du Seigneur ». C'est paru aux presses universitaires de Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Clément Lenoble, vous êtes quant à vous chargé de recherche au CNRS, historien du Moyen-Âge. Vous avez contribué à un ouvrage dirigé par Franck Mercier et Isabelle Rosé et paru également aux presses universitaires de Rennes en 2022 et qui lui est intitulé « Aux marges de l'hérésie, invention, forme et usage polémique de l'accusation d'hérésie au Moyen-Âge ». Et puis vous avez également co-dirigé avec Véronique Chankowski et Jérôme Maucourant l'ouvrage « Les infortunes du juste prix, marché, justice sociale et bien commun de l'Antiquité à nos jours ». Ça, c'était en 2020 aux éditions du Bord de l'eau. Écoutez, Clément Lenoble, pour commencer cette émission, il faut peut-être commencer par tordre le cou à l'idée la plus communément répandue sur le sens même de ce mot usure. Alors, le Larousse le définit ce terme comme un intérêt perçu au-delà du taux licite ou comme un délit consistant à stipuler dans un prêt d'argent un intérêt à taux excessif dépassant un plafond fixé par la loi. Est-ce que les liens entre usure et prêt à intérêt sont si évident que cela, selon vous, Clément Lenoble?
Alors, bonjour. Ils sont, oui, évidents au départ en latin classique à Rome dans l'Antiquité où l'usure définit en effet l'intérêt du prêt et aussi dans le droit canonique au XIIe siècle où le mot usura a le même sens. Mais ce mot a une histoire très longue et à côté de ce sens premier, il se charge tout au long du Moyen-Âge d'une dimension politique et institutionnelle et sociale aussi, qui enrichit le sens du mot et qui va tirer ce mot vers, comme vous l'avez dit, la définition ou la représentation de tous les comportements économiques, mais pas seulement, aussi politiques, qui sont répréhensibles moralement, mais aussi politiquement et institutionnellement. C'est-à-dire que l'Église va condamner, va dénoncer comme étant des usuriers ses ennemis, notamment assez rapidement.
Mais ce que vous avez dit, Clément Lenoble, c'est bien que le premier usage, la première conception quand même du mot reste celle qui est la plus communément partagée aujourd'hui, on va dire, celle de ce taux d'intérêt appliqué à une forme de prêt. C'est cela qui cristallise l'intention en premier.
Effectivement, c'est bien cela. Après, les sens qui vont s'accumuler et s'enrichir au cours du temps vont peut-être disparaître ou devenir un peu invisibles. On va un peu les oublier. C'est pas pour autant qu'ils ne sont plus là exactement. au cours du 19e siècle, après les débats autour des du profit possible et des profits réalisés dans les nouvelles pratiques économiques du capitalisme naissant, les historiens, les premiers historiens, les sociologues, les économistes qui vont se pencher à ce moment-là sur les liens entre économie et religion, entre capitalisme et christianisme, vont s'arrêter sur des textes qui ne considèrent l'usure, ne définissent l'usure que comme un intérêt illicite.
Donc on comprend effectivement peut-être le basculement sémantique qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est ce sens-là qui est resté, que peut-être tous les débats dont on va parler aujourd'hui au cours de cette émission ont été un petit peu invisibilisés, ou en tout cas sont passés à la trappe de cette question de l'intérêt, et on verra aussi pourquoi l'intérêt est devenu une question morale du point de vue de l'Église. D'ailleurs, Valentina Toneato, ce qu'on comprend aussi à travers cette évolution sémantique du terme d'usure, c'est qu'il fait à la fois l'objet, on va dire, d'une pratique très précise, hein, qui est celle de ce fameux taux d'intérêt, puis on va le voir, d'un ensemble de pratiques vis-à-vis de l'économie jugée comme immorale. Mais à partir de quand, de quelle époque, les pratiques économiques de façon générale commencent justement à faire l'objet d'une intention, d'une sorte de classification morale de la part de l'Église? Est-ce que l'Église adopte très rapidement un point de vue, une opinion, on va dire, sur le monde économique?
Je dirais que l'attention au monde économique de la part du christianisme, des auteurs chrétiens, commence très très tôt, dès les évangiles, lorsqu'on trouve des paraboles qui parlent justement de fructification de la richesse, d'augmentation des biens terrestres en fonction naturellement du salut dans l'au-delà, comme dans la parabole des talents par exemple, qui se termine justement avec Dieu usurier qui récolte les intérêts de l'argent qu'il a confié aux hommes. Naturellement, ce sont des métaphores du salut. Donc l'intérêt pour l'économie dans les textes chrétiens, et naturellement dans les auteurs chrétiens, on va très vite, à travers les commentaires bibliques, reprendre ces idées de la fructification de la richesse, de la circulation de l'argent au sein de la communauté. Il s'agit naturellement des métaphores du salut. Mais effectivement, l'intérêt est là, et surtout, c'est un langage qui se forme au fur et à mesure des textes, au fur et à mesure des commentaires de la Bible. C'est un langage de l'économie plus que une théorie ou plusieurs théories sur l'économie.
Oui, on le comprend, et notamment à travers, vous l'avez évoqué, les paraboles, ce que vous nous avez dit. Alors, vous avez évoqué deux choses très intéressantes, Valentina Toneato, donc on va les déplier toutes les deux. La première chose, c'est que ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que finalement, la richesse et puis la possession de biens matériels est encouragée par l'Église, alors à travers tout un ensemble de langages, sans pour autant que ce soit élevé au rang de théorie, on va y revenir. Mais cette richesse est encouragée, mais pas pour elle-même. C'est une richesse encouragée pour peut-être mieux s'en défaire, on pourrait le formuler ainsi, Valentina Toneato.
Oui, c'est surtout une richesse qui doit être cultivée pour être pour qu'elle puisse circuler à l'intérieur de la communauté. Le fait que les pères de l'Église utilisent la métaphore de la monnaie, par exemple, pour parler de la foi, cela nous fait comprendre cette idée de l'augmentation des biens terrestres en fonction du salut. Effectivement, depuis très tôt, je pense à Clément d'Alexandrie dans son traité sur le salut du riche, où il reprend la péricope du jeune riche de l'Évangile. Il ne dit pas qu'il faut se défaire tout simplement de sa richesse. Il faut bien l'utiliser. Il faut que cette richesse soit utilisée. C'est la notion d'usage qui est au cœur tous les discours, enfin la plupart des discours sur la richesse des premiers temps chrétiens dans l'Antiquité tardive. Derrière, naturellement, un langage qui est très moralisateur, mais si on essaie juste de se défaire de ce filtre de la moralisation et qu'on essaie de voir quelle est la manière de traiter de la richesse, on voit que les pères de l'Église poussent à son utilisation, jamais à sa thésaurisation. Il faut pas garder la richesse, il faut que cette richesse puisse circuler, puisse être augmentée. Voilà, donc on est loin de la condamnation du commerce, de la condamnation du crédit, de la condamnation de l'enrichissement qu'on est habitué plutôt à voir dans ces sources.
Et ça, effectivement, Valentina Toneato, c'est important, vous l'avez dit, on ne condamne pas nécessairement le crédit en tant que tel, puisqu'il permet cette circulation aussi de l'argent, mais, et c'est là le deuxième tiroir que je voulais ouvrir avec vous et que vous avez évoquée dans votre précédente réponse. Vous avez évoqué cette image d'un dieu usurier lui-même. Alors, on pourrait se dire que c'est relativement insultant ou injurieux dans notre conception actuelle. Comment expliquer finalement cette apposition de l'adjectif usurier à Dieu aussitôt finalement dans l'histoire de la chrétienté ?
Je l'explique tout simplement parce que les pères de l'Église sont redevables de la culture classique, du droit romain, dans lequel le prêt sans intérêt, le mutuum, est accepté. Le prêt avec stipulation d'intérêt, qui s'appelle usure, fenus, usura, est accepté aussi. Il n'y a pas de condamnation forcément morale de ce type de pratique tant qu'elle reste dans le cadre de la loi. Donc ils sont redevables de cette notion. Le mot usure n'est pas forcément en soi négatif et il est aussi bien utilisé pour définir de manière négative un mauvais comportement économique, dont peut-être on reparlera, mais aussi le même mot peut très bien fonctionner pour montrer que Dieu fait fructifier la richesse. Et l'idée, dans l'usure, il y a quand même l'idée de la fructification, de l'augmentation du capital, ce qui est tout à fait conforme à ce qui fait Dieu avec le salut, avec la grâce.
Voilà, et là on comprend, Valentina Toniato, qu'il s'agit à travers le mot usurier de finalement d'écrire un comportement assez factuel. Finalement, c'est une action qui est décrite là, en tout cas quand il est accolé à la personnalité de Dieu, on va le dire. Et puis Valentina Toniato, il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que cette réflexion sur la circulation de la richesse, sur voilà, cette idée aussi d'un enrichissement qui est encouragé, mais encore une fois pas pour être accumulé, on va dire, cette utilité peut-être aussi de l'argent, cette réflexion-là, elle se produit dans un certain contexte. De façon générale, le prêt à intérêt est une pratique courante, c'est quelque chose qui accourt à cette époque-là, dès la fin de l'Antiquité, voire même avant. Donc il serait quand même assez compliqué de condamner, bien on sûr. Va dire, quelque chose qui nourrit de fait l'économie.
Bien sûr. Oui, oui, là on est au cœur du fonctionnement de l'économie dans un monde tardo-antique qui comprend tout à fait ce type de pratiques de crédit, qu'il s'agisse du prêt commercial, du prêt à la consommation, du prêt à intérêt plus classique, etc. Il y a un encadrement de la part de la loi. On sait que le Justinien, par exemple, a effectivement baissé les taux d'intérêt, enfin encadré et baissé les taux d'intérêt par rapport à des époques plus hautes. Mais voilà, enfin, les pères d'église vivent dans leur monde, donc il ne s'agit pas de. En fait, lorsqu'ils s'emparent, si vous voulez, des mots qui désignent le prêt à intérêt, comme fenus ou usura, ils ne le font pas pour définir les taux d'intérêt ou pour encadrer légalement les pratiques des crédits. Ils le font pour parler d'autre chose, en quelque sorte.
Et du reste, Valentina Toniato, vous avez parlé de l'importance de la loi. De fait, personne ne considère comme juste, finalement, que quelqu'un ne rembourse pas ses dettes ou ne rembourse pas son créancier. C'est même plutôt l'inverse qui se produit. Les mauvais payeurs sont plutôt jetés en prison qu'autre chose. Il n'y a pas cette idée de justice non plus qui considérerait que le prêt, que celui qui a émis le prêt, de fait, est coupable.
Tout à fait.
Et pourtant, Valentina Toniato, malgré cette relative acceptation, on va dire, à la fois légale et sociale du rôle du prêt à intérêt, en 325, le Concile de Nicée établit l'usure en tant que pratique économique non vertueuse. Donc on vient là à cette distinction entre peut-être cette usure vertueuse et cette usure non vertueuse, qui doit donc faire, de fait, l'objet d'une certaine réglementation. Elle est dès lors interdite au clerc. Alors de quelle pratique parle-t-on là, au juste, Valentina Toniato, quand on parle d'interdire l'usure au clerc?
Alors, dans ce type de sources, telles que les canons conciliaires, on parle des conciles, vous avez cité Nicée, il y en a d'autres après, entre 4e et 5e siècle, en tout cas, effectivement, le pré-intérêt est interdit au clerc, et il est toujours accompagné d'autres termes, tels que avarice et profit honteux, le turpe lucrum, qui se trouve dans ces sources. Effectivement, c'est là, disons, avec ce terme d'usure qui est un peu difficile à comprendre dans ces contextes, je dirais qu'on interdit au clerc tout comportement économique qui peut mettre en danger les biens d'église. Les clercs, il ne faut pas qu'ils fassent du commerce avec les biens de leur église. Il ne faut pas qu'ils retirent des profits qui seraient dès lors considérés comme honteux s'ils sont faits sur des biens sacrés. Et donc c'est une manière de séparer aussi les pratiques profanes, les pratiques laïques et les pratiques économiques des laïcs et celles qui sont permises donc au clerc. On interdit aussi au clerc de tenir des boutiques ou de vendre, voilà, ou d'être des administrateurs pour des laïcs, par exemple. Donc on leur interdit tout un tas de choses.
C'est presque une façon de prévenir le conflit d'intérêts, finalement.
Oui, en quelque sorte. Il faut que les clercs fassent leur métier de clercs et qu'ils ne se mêlent pas, et vice-versa, les laïcs ils ne vont pas se mêler, enfin, souhaiter au moins, qu'ils ne se mêlent pas des affaires d'église.
Alors, pour bien comprendre, Valentina Toniato, cette dimension morale, mais pas nécessairement condamnable de l'usure lors de l'apparition du mot, il faut remonter aussi au tout premier traité chrétien de langue latine qui est entièrement consacré à ce sujet. C'est le De Tobia d'Ambroise de Milan, qui aurait été rédigé, alors je crois qu'il y a un certain flou autour de la date de rédaction, mais qui aurait été rédigé entre 385 et 389.
Beaucoup ne prêtent pas par peur de perdre, d'être abusés, et c'est ce qu'ils racontent habituellement à ceux qui les sollicitent. Il est dit à chacun de ceux-là, perds de l'argent pour un frère et un ami, et ne le cache pas sous une pierre en pure perte. Place ton trésor dans les préceptes du Très-Haut, et il te sera plus utile que l'or. Mais les oreilles des hommes deviennent sourdes à des commandements si salutaires. Les riches surtout ont leurs oreilles fermées par l'argent et son bruit assourdissant. Pendant qu'ils comptent leur argent, ils n'entendent pas les divines paroles. Dès que, sous la contrainte de quelques besoins ou soucieux de racheter les siens captifs aux barbares qui cherchent à les vendre, quelqu'un a commencé à demander. Aussitôt le riche détourne son visage, il ne reconnaît pas sa nature, il ne prend pas en pitié l'abaissement du suppliant, il ne soulage pas son besoin, il ne considère pas la faiblesse commune. Il se tient, inflexible, hautain, il ne se laisse pas fléchir par les supplications, ni ému par les larmes, ni adouci par les plaintes. Il jure qu'il n'a rien, bien au contraire, qu'il recherche lui-même un créancier pour subvenir à ses besoins. Pourquoi ajoutes-tu à ton insensibilité et à ta cupidité un serment ? Tu n'es pas acquitté par un parjure, non, tu es lié par lui. Mais lorsqu'il est fait mention des intérêts et du gage, alors, la fierté abaissée, l'usurier sourit et celui-là même qu'auparavant il affirmait ne pas connaître, il l'accueille. Tels sont vos bienfaits, vous les riches. Vous ne donnez guère et vous exigez plus. Telle est votre bonté, vous dépouillez même lorsque vous aidez. Même le pauvre est une terre fertile pour votre profit.
Voilà, une lecture faite par Raphaël Laloum, qui travaille aussi à France Culture, de cet extrait du De Tobia d'Ambroise de Milan. Alors Clément Lenoble, pour bien comprendre la portée de ce texte, il faut peut-être comprendre tout d'abord qui en était l'auteur, qui est alors Ambroise de Milan et quelle est, on va dire, son autorité dans le contexte de l'époque.
Alors Ambroise de Milan est l'évêque de Milan. Il est effectivement l'auteur du premier traité connu, entièrement consacré à l'usure, dans lequel il fait jouer constamment à la fois la condamnation morale de certaines pratiques économiques et l'utilisation métaphorique de l'usure comme métaphore de l'échange entre le fidèle chrétien et Dieu. Et dans l'extrait que vous avez lu, qu'on vient d'entendre, il me semble qu'on a les deux registres qui se superposent et s'entrecroisent. Mais je dois vous dire que je pense que Valentina Toniato sera beaucoup plus à même de répondre à votre question sur Ambroise de Milan que moi. Donc je préfère lui céder la parole.
Allez-y, Valentina Toniato. On a compris donc qu'il était évêque. Ce qu'il faut peut-être aussi comprendre dans ce contexte, c'est est-ce que c'est le seul à se préoccuper de la question, ou est-ce que c'est globalement une question qui intéresse peut-être tous les évêques, ou en tout cas certains ecclésiastiques du moment? Et puis est-ce que Ambroise de Milan a fait particulièrement date du fait de son statut, justement?
Alors il faut dire, pour avoir étudié tout cela, je dirais que tous les évêques se préoccupent de ces thématiques à cette époque. C'est-à-dire Ambroise de Milan est parmi naturellement les plus prolifiques dans le tous les grands évêques dès la fin du IVe siècle et du début du Ve siècle, tous écrivent à un moment donné sur l'usure, exactement comme tous ils écrivent sur l'avarice, par exemple. Donc effectivement, le texte d'Ambroise de Milan est particulièrement frappant et particulièrement riche. Mais s'il y a dit Clément Lenoble est vrai, il faut les lire en prenant un peu des distances. Effectivement, à l'intérieur, on voit toujours la présence des deux registres. Le registre de la, ce qu'on pourrait appeler une critique sociale, une critique de la société de son temps, mais aussi l'usage métaphorique de tous ces, de ce langage, y compris celui de l'usure. Je dirais que dans le texte d'Ambroise Milan, exactement comme dans d'autres textes chez Basile de Césarée, du côté grec, chez Jean Chrysostome, chez Augustin plus tard, l'usurier est moins critiqué en tant qu'acteur réel et concret de la vie sociale économique de la cité, qui n'est davantage proposé comme un stéréotype, un modèle de mauvais comportement économique, défaillant dans le cadre de la société chrétienne, de la communauté des fidèles. Il y a d'autres prototypes de ce genre. Il y a le propriétaire foncier, par exemple, qui est comme le riche insensé de l'Évangile. Voilà, donc il y a plusieurs, disons, c'est comme si des figures de la société, de métiers même, soient mis en avant comme prototype d'un mauvais comportement. Le mauvais comportement économique en question, il est assimilable à l'avarice. C'est comme cela que, aussi, les pères de l'Église appellent les usuriers, ils sont avant tout des avares. Donc, il faut remonter plutôt à cet élément-là.
Et puis Valentina Toneato, pour bien comprendre aussi la portée de ce côté métaphorique que vous venez d'évoquer, cette avarice, elle concerne celle de l'argent, parce qu'on a compris que c'était important que de le faire circuler. Mais en fait, on peut même aller plus loin. Cette avarice, c'est aussi celle de la foi, de façon générale chez Ambroise de Milan. Et là, il y a un lien qui est intéressant tout de même à explorer entre argent et foi, et puis cette mise au banc, finalement, de la communauté des chrétiens. En fait, c'est un peu cette idée de la confiance aussi. Qui est avare de sa foi n'est pas digne, finalement, de rentrer dans cette communauté-là et d'en faire partie, alors d'un point de vue social, religieux, etc., mais aussi économique. Tout ça est très lié, en fait.
Oui, exactement. Bah, les avares, en général, dont les usuriers ou d'autres figures de ce genre, sont des perfides, des infidèles, sont ceux qui, finalement, ne comprennent pas la valeur de la foi. Parmi ces infidèles qui connaissent pas la foi, qui ne reconnaissent pas sa valeur, dans le De Tobia d'Ambroise de Milan, il y a les Juifs. Donc malheureusement, on tombe tout de suite dans les marges, voire au-delà donc des frontières de la communauté chrétienne. Il y a ceux qui ne peuvent pas participer à ce marché interne qui est donc qui sont caractérisés par les échanges autour de la foi et la multiplication de la foi.
Et là, Clément Lenoble, on atteint aussi une autre dimension. Peut-être en termes de morale, mais qui continue à filer aussi cet aspect métaphorique, c'est que finalement il y a ce rapport à la foi, l'idée d'en être avare ou non, mais il y a aussi l'idée, et notamment avec la stigmatisation des Juifs dans ce côté, on va dire, perfide et infidèle qui est ramené ici par cette question de l'usure, mais il y a ce côté aussi de mettre un prix à ce qui n'aurait pas dû en avoir un, à ce qui était sortir de l'échelle des valeurs, par exemple, et c'est peut-être là on peut remonter finalement aux origines quasiment bibliques de cette stigmatisation des Juifs. Et puis à travers cette figure de Judas aussi, il y a cette idée qu'on a donné un prix, alors en l'occurrence au Christ, donc outrage suprême. Mais voilà, il y a aussi cette idée-là que c'est pas tant l'idée de pratiquer un intérêt que de faire rentrer dans un circuit économique des choses qui n'auraient jamais dû l'être.
Oui, exactement. La trahison de Judas, pardon, donc est rapidement qualifiée par les pères de l'Église comme une opération usuraire, et les Juifs qui ont payé pour cette trahison sont qualifiés d'usuriers. Et à partir de là, si vous voulez, dès que quelqu'un se comporte mal, un chrétien se comporte mal économiquement à l'intérieur de la communauté, on va dire qu'il judaïse et que en pratiquant l'usure, on judaïse, et donc usurier et juif deviennent quasiment synonymes, des synonymes. Et alors pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, on considère que Judas et les Juifs n'ont pas su reconnaître la valeur du Christ et la valeur de la nouvelle foi, et ils y ont mis un prix dérisoire, 30 deniers, ce qui prouve à quel point cette leur leur aveuglement les a conduits en plus à faire un profit ridicule. Et ça, tout au long du Moyen-Âge, cette idée va se renforcer jusqu'à ce que l'usure définisse vraiment les profits des petits prêteurs qui font des petits profits, qui font du prêt à la petite semaine et qui sont incapables de faire des affaires réellement productives.
Clément Lenoble, on arrive là à un point qui est assez crucial, alors qui va peut-être prendre corps, on va dire, de façon plus concrète, effectivement, au cours des siècles suivants, 13e, 14e, enfin même dès le 12e, et donc je me permets une petite avancée dans le temps, un petit écart chronologique, on va dire, mais dans quelle mesure, et là c'est vraiment une question très, très ouverte, dans quelle mesure on peut dire que finalement la vision économique de l'Église, alors qu'il n'est pas une doctrine à proprement parler, on l'a compris, mais dans quelle mesure cette vision de l'usure, de l'avarice, liée à des questions d'infidélité, de perfidie, etc., finalement, dans quelle mesure la vision économique se met au service aussi d'une façon pour l'Église de stigmatiser, dénigrer ceux tout simplement qui ne font pas partie de son giron. Voilà. Est-ce qu'on peut parler finalement, Clément Lenoble, d'une forme d'instrumentalisation de l'argument économique au service peut-être d'une doctrine pour le coup 100% religieuse ?
Instrumentalisation, c'est toujours un peu compliqué. C'est un mot qui est un peu compliqué
connoter
et difficile à utiliser en histoire, sauf quand on en a les preuves certaines. Disons qu'il y a un processus, effectivement, dans lequel, comme on le disait au tout début, l'usure se charge d'un sens politique et institutionnel. Ce processus commence avec le Concile de Nicée, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Valentine. Pendant le Moyen-Âge central, entre 11e et 13e siècle, pendant cette période de réforme de l'Église qui transforme l'Église, le gouvernement de l'Église en monarchie pontificale, l'usure devient la pratique, le mot qui désigne la pratique économique des ennemis de la papauté. L'empereur, les alliés de l'empereur, ses vassaux, les évêques, les prélats qui ont été investis par l'empereur et non par la papauté romaine. Et donc, effectivement, là, il y a une instrumentalisation, on pourrait dire, du terme économique de l'usura, qui n'est plus tellement la pratique du crédit là pour le coup, mais ça peut désigner le refus de payer les dîmes, ça peut désigner l'administration des biens d'église par un évêque qui n'a pas été investi par le pape, mais par l'empereur ou par un antipape, voilà. Donc à ce moment-là, effectivement, le mot est utilisé à des fins politiques.
Valentina Toneato, pour peut-être bien comprendre aussi dans quelle mesure, alors on va pas parler de sincérité, mais dans quelle finalement doctrine plus globale s'inscrit aussi cette lutte contre l'usure et contre l'avarice, et pour bien comprendre quel est l'argument moral finalement derrière aussi, au nom de quoi on condamne cet intérêt. On entendait d'ailleurs dans l'extrait qu'on vient d'entendre là, d'Ambroise de Milan, c'est une critique assez virulente des riches, entre guillemets. Est-ce qu'il y a cette idée aussi de justice sociale à travers la condamnation du prêt avec intérêt ?
Bah, je ne parlerai pas de justice sociale parce que oui, effectivement, le mauvais comportement économique d'un avare, usurier ou d'un grand possesseur foncier qui retient ses récoltes est celui de, effectivement, il opprime les pauvres, il fait du mal, donc il empêche la circulation de la richesse et de la foi, de la grâce dans la communauté. Mais cette idée de l'oppression des pauvres, ce n'est pas exactement, ça ne tient pas vraiment à la justice sociale. Je dirais que il faut que chez les pères de l'Église, le pauvre garde sa place dans la communauté, parce que en donnant aux pauvres, le riche peut être sauvé. Les pauvres ont ce statut de, comme dit Augustin, de portefeuille de ceux qui aident le riche à transporter dans l'au-delà les richesses données ici-bas.
Donc c'est un moyen de rédemption finalement.
Oui, en fait l'aumône est un moyen de rédemption. D'ailleurs l'aumône est souvent opposée à l'usure dans plusieurs sermons et dans plusieurs traités. C'est là disons, en fait, tout le monde reste à sa place. Ce n'est pas tellement de la justice sociale, c'est plutôt maintien de l'ordre, je dirais.
Oui, mais c'est effectivement, c'est intéressant de voir que c'est aussi une idée de maintenir dans le droit chemin, peut-être un peu tout, et l'argent, et la hiérarchie sociale à la tête de laquelle se trouve de fait l'Église. Valentina Toneato, il y a une autre idée reçue qui a beaucoup circulé, donc à vous de nous dire s'il s'agit ou pas d'une réalité historique. Il y a aussi cette idée que vous avez parlé d'aumône. Or, une grande partie de cette aumône-là, elle tombe aussi dans les poches de l'Église de façon très très large. Elle va aussi en direction de toute l'administration ecclésiale. Dans quelle mesure on peut dire que condamner cette pratique de l'usure et puis condamner de fait l'avarice, c'est aussi une façon pour l'Église de croître économiquement?
Oui, je pense que c'est effectivement comme vous dites la condamnation de l'usure et disons le fait de d'appeler à l'aumône. Souvent on ne parle pas de l'aumône des quelques piécettes données aux pauvres sur le seuil de l'Église, on parle des donations faites à l'Église pour le bien des pauvres. Donc dans ce sens-là, bloquer la richesse en prenant donc des intérêts et pour un usage exclusivement individuel, voire individualiste si vous voulez, effectivement sert, enfin ce sont des arguments qui sont avancés pour condamner certaines pratiques qui ne permettent pas que la richesse tombe entre les mains de l'Église. Une richesse qui tombe entre les mains de l'Église, naturellement pour la communauté, pour les pauvres, et donc en permettant à l'Église de s'enrichir.
Clément Lenoble, il y a une autre distinction qu'il faut faire aussi, et toujours dans cette logique aussi de maintenir chacun à sa place, comme on vient de l'évoquer. Vous dites que dans les siècles qui suivent finalement le traité qu'on vient d'évoquer, on retrouve les deux significations, en fait les deux jambes sur lesquelles marche l'usure, on va dire, et la justification de son interdiction. C'est à la fois une interdiction simple du prêt à intérêt pratiqué par des personnes privées ou des représentants des pouvoirs publics à des fins personnelles, mais aussi une interdiction de la pratique au clergé et aux administrateurs royaux ou impériaux, en insistant sur la gestion des biens des pauvres. Est-ce que l'idée aussi, en essayant de réguler, on va dire, cette pratique de l'usure, c'est d'affirmer une hiérarchie au sein de l'Église, et à savoir, a fortiori, le rôle des évêques aussi dans cette économie de l'Église?
Alors oui, ça, dès le début, les pères de l'Église, qui sont souvent évêques, présentent l'évêque comme l'administrateur des biens de la communauté des fidèles. Pendant les siècles suivants, ce qui se passe au sujet à la fois du clergé, des administrateurs des biens d'Église, donc, et des administrateurs, disons, public des biens des cités ou des biens des royaumes, voilà, des principautés, c'est que à travers la condamnation morale de l'usure, on va interdire à ces administrateurs de faire un profit privé avec des biens publics. C'est aussi ce qu'évoquait Valentina Toneato au
propos du mélange des intérêts privés et familiaux avec ceux de l'Église.
Voilà, donc c'est pour éviter une éventuelle dilapidation des biens publics ou des biens sacrés liés à des pratiques, à une sorte de corruption où le gestionnaire, l'administrateur tirerait un profit privé en prêtant des biens ou engageant des biens publics.
Alors on a parlé de cette fameuse interdiction de l'usure pour les clercs dès 325, mais Valentina Toneato, pour le reste de la population, comment l'Église entend-elle orienter les comportements dans le sens qu'elle estime de fait moral et vertueux?
Je dirais que on ne condamne pas, comme on a dit tout à l'heure, on ne condamne pas les pratiques des crédits. On condamne, sous le nom d'usure seulement des pratiques qui risquent de bloquer la richesse dans des circuits qui ne sont pas utiles, au plus grand nombre.
Oui. Et juste, quelle était la menace de fait émise par l'Église? Quelle était, on va dire, la punition, alors qu'elle soit divine ou terrestre, si jamais on se rendait coupable, effectivement, de cet acte d'usure, dans le sens immoral, on va dire, de l'usure?
De ne pas aller au paradis, c'est la grande condamnation. Oui, et cela reste effectivement une condamnation morale, enfin spirituelle, disons. Donc le danger pour la, à l'époque des pères de l'Église n'est pas un danger particulièrement concret, disons.
J'entends bien, et cela dit, peut-être que cette menace se concrétise là encore au fil des siècles. Je crois qu'en 1139, le second concile du Latran prive les usuriers de sépulture chrétienne ainsi que de la possibilité de recevoir les ordres et les déclare infâmes. Là, Clément Nedoble, ça devient quand même de plus en plus sérieux, on va dire, cette menace.
Oui, c'est les condamnations plus concrètes, on va dire, au plan terrestre, interviennent effectivement plus tardivement à partir du concile de 1139, avec la privation de sépulture et l'excommunication, et aussi assez rapidement l'expropriation des biens et donc l'impossibilité de transmettre ces biens à des héritiers. Et également l'expropriation des amis et des clients. Et là, avec la condamnation pour infamie aussi, on rapproche vraiment l'usurier de l'hérétique parce que les peines sont les mêmes en fait.
Voilà. Oui, on voit que c'est la même grille effectivement qui est appliquée. Valentina Toneato, on pourrait se dire que les mêmes causes provoquent les mêmes effets, que finalement cette moralisation peut-être aussi de l'usure et puis cette volonté de contrôler finalement les circuits de l'argent et puis une forme de hiérarchie sociale va intéresser d'autres formes du pouvoir, alors cette fois-ci non plus religieux mais bien étatique. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'État, la royauté, de fait, va s'inspirer de cette méthode-là pour garder une forme de contrôle ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit de fait dans les siècles suivants ?
Oui, si on pense aux condamnations de l'usure à l'époque carolingienne, par exemple, alors ce sont des textes qui sont assez difficiles à être interprétés parce que on n'a pas beaucoup à se mettre sous la dent. Il y a dans les capitulaires carolingiens, les interdictions sont très nettes. Il est interdit pour les clercs et les laïcs de prêter usure. Point. Donc après, il faut interpréter qu'est-ce que cela veut dire exactement. Mais c'est vrai que à l'époque carolingienne, le circuit vertueux, disons, de l'économie s'étend aussi à la sphère du pouvoir public, qui est garant, le pouvoir royal, qui est garant de la paix, de la foi et du salut des sujets de tout l'Empire. Donc effectivement, à l'époque carolingienne, il y a une analogie qui est faite, qui se trouve dans les sources, entre biens sacrés et biens publics, biens du fisc, les biens de l'État, disons. On traite les deux types des biens de la même manière et le roi effectivement est le garant de la en quelque sorte de la santé économique du royaume du côté tant des biens sacrés que des biens fiscaux dans ce sens là.
Allez-y, Valentine.
Oui, l'interdiction de l'usure à l'époque carolingienne est effectivement prononcée dans des contextes assez précis, qui sont des contextes où l'on pousse à la bonne administration territoriale, à la bonne administration des biens de l'Église et du fisc, etc. Donc.
Alors on va voir que effectivement cette pensée-là va infuser, et alors il faut aussi se poser la question de quelle unité donner à cette pensée de l'usure qui, on va le voir, ne se pense pas comme une doctrine en tant que telle, et puis essayer de comprendre qui sont les usuriers qui, on va dire, s'attirent les foudres ainsi de l'Église, et puis aujourd'hui qu'est-ce qu'il reste de cet héritage de la pensée de l'usure. On en parle juste après Deus Misertus Hominis, un chant du XIIIe siècle dont le compositeur est anonyme et qui est ici interprété par l'ensemble Hilliard, c'était en 2007. Deus misertus hominis, labitre atum criminis, ebe per partum virginis, oh, Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Comme tous les jeudis, nous inscrivons un nouveau mot dans notre dictionnaire de l'économie. Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire de la conception théorique et de l'usage du concept d'usure grâce à Valentina Toneato, maîtresse de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'Université Lyon 2, et à Clément Lenoble, chargé de recherche au CNRS et historien du Moyen-Âge. Clément Lenoble, on a compris avec cette distinction entre bonne et mauvaise usure qui se met en place, on va dire, à partir du IVe siècle et à travers une production, on va dire, très intense aussi de la part des pères de l'Église, que ce n'est pas tant l'usure en soi qui inquiète et qui fait l'objet d'une condamnation que les individus qui la pratiquent, les fameux usuriers, c'est-à-dire ceux qui ne pratiqueraient pas l'économie de la manière dont l'Église l'entend. Qui sont au juste ces usuriers? Et je pose la question notamment parce qu'au fil des siècles, il y a un autre acteur qui va rentrer en jeu et se consolider. C'est évidemment le réseau bancaire qui va s'étendre à travers toute l'Europe. En quoi l'activité bancaire est autorisée et socialement acceptée, plus ou moins cela dit, se distingue-t-elle finalement de ce travail des usuriers?
Alors, dans la lignée dans la continuité avec ce dont on vient de parler au sujet de la différence entre privé et public, effectivement, l'usurier est quelqu'un qui retire, un prêteur qui va retirer un profit uniquement privé de son activité économique. Dès le début la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, les théologiens et les canonistes vont expliquer que l'usurier est un prêteur qui vit parmi les pauvres et qui prête de l'argent aux pauvres et qui tire profit de cette activité et qui réinvestit les gains de son activité uniquement dans le prêt.
Ce qui est intéressant, c'est Clément Lenoble, ça veut dire qu'il y a un contexte finalement qui peut jouer en faveur ou en défaveur du prêt. C'est-à-dire que si l'argent est utilisé pour une cause public ou noble, je ne sais pas comment on pourrait la définir, c'est moins grave entre guillemets.
C'est moins grave et c'est même justifié au cours du XIIIe siècle et à la fin du XIIIe siècle, on est arrivé à une justification complète de l'intérêt dans les opérations de prêt par le fait que cet intérêt soit réinvesti dans des activités économiques jugées utiles au bien commun, jugées utiles pour la communauté. Et qui est-ce qui juge que ces activités sont utiles? Évidemment, ce sont les autorités. Et ces activités, c'est le commerce au long cours, le financement public des institutions, des cités, des royaumes, etc. Donc les grands marchands, qui sont effectivement actifs dans ces domaines-là et qui font aussi du crédit, puisqu'ils réinvestissent les gains et les profits de leurs activités bancaires dans le commerce, dans le financement public, eh bien, leurs intérêts sont considérés comme licites.
En fait, dès les 13e, 12e et 13e et 14e siècle, on comprend que l'investissement est une donnée fondamentale pour une économie en bonne santé, Clément Lenoble, on pourrait le dire ainsi, et que c'est ça qui justifie la plasticité de la condamnation du prêt.
C'est ça, exactement. C'est le mot juste. Le mot usure est un mot plastique et qui s'adapte au contexte et aux personnes aussi, parce que la réputation du prêteur prend une importance fondamentale au cours du XIIIe siècle. Si le prêteur est réputé être un marchand capable de faire fructifier la richesse et de l'investir dans le bien commun, alors ses prêts ne sont pas considérés comme usuraires.
On comprend aussi que l'enjeu de réputation doit être très fort aussi pour les usuriers et que ça doit être plus facile de justifier aussi de son action dès lors qu'on a une bonne réputation et au contraire plus compliqué lorsqu'on en a une mauvaise. Très concrètement, Clément Lenoble, est-ce qu'il y a des tribunaux finalement qui jugent de l'intensité de la peine dès lors qu'il y a effectivement acte d'usure et si oui, qui siège à ces tribunaux?
Alors, il peut y avoir des procès, effectivement, sur dénonciation des emprunteurs ou de personnes qui constatent des faits condamnables, des pratiques condamnables. On se on se réfère en général à la cour de l'évêque ou à des tribunaux civils, notamment dans les cités, les communes italiennes. Et puis après, au XIVe siècle, on pourra éventuellement faire appel aux tribunaux des marchands qui apparaissent au cours du XIIIe siècle dans les grandes villes marchandes italiennes qui sont là pour traiter des litiges entre marchands. Mais lorsque l'on a des procès d'usuriers, très souvent, on s'aperçoit que ces usuriers sont des prêteurs accusés de pratiquer l'usure par des factions ennemies dans des contextes très conflictuels à l'intérieur des villes, notamment en Italie, entre partisans de la papauté et partisans de l'Empire, entre Guelfes et Gibelins, notamment. Donc les factions qui ont exactement les mêmes pratiques économiques et les mêmes sources de revenus s'accusent entre elles de pratiquer l'usure pour se débarrasser d'une famille ou voilà.
Donc il y a peut-être une forme d'instrumentalisation pour le coup, mais politique, qui s'instaure à ce moment-là, Clément Lenoble. Peut-être en réponse aussi à ce contexte que vous avez évoqué où on a besoin d'investissements pour financer de fait des grandes entreprises et notamment de marchands et de commerce maritime, on pourrait dire que le Concile de Vienne, qui a lieu en 1311 et qui ordonne aux inquisiteurs et aux évêques de poursuivre comme ceux qui sont diffamés ou soupçonnés d'hérésie et de punir comme s'ils étaient hérétiques ceux qui affirment obstinément que l'exercice de l'usure n'est pas un péché, est une réponse finalement à ce contexte. Le problème, ce n'est pas tant l'usure que d'affirmer que cette usure est acceptable et surtout est acceptable du point de vue de l'Église. Donc ce qui fait qu'on accepte la pratique, mais peut-être pas le discours autour d'elle.
Oui, effectivement, le Concile de Vienne en 1311 condamne donc le fait d'affirmer que l'usure n'est pas un péché, c'est-à-dire que si quelqu'un a été accusé d'être un usurier, il faudrait qu'il fasse amende honorable et accepte de restituer les gains mal acquis. S'il continue d'affirmer que ce n'est qu'il n'a pas commis de péché, alors là, il peut être accusé d'être comme un hérétique, voire un hérétique. Mais cette mesure du Concile de Vienne vise le laxisme des villes vis-à-vis de l'usure. C'est écrit clairement dans le canon ex gravi. En fait, ce que l'Église vise aussi à travers cette condamnation, c'est le fait que les villes fixent des taux d'intérêt légaux dans leur statut. Et ça, l'Église est contre. Il faut que l'usure reste quelque chose de plastique et que la définition de l'usure et la condamnation de l'usure puissent rester le fait du confesseur et ou du juge ecclésiastique.
Et reste de fait dans des circuits beaucoup moins officiels, on va dire presque de l'économie souterraine. On l'a compris, Clément Lenoble, depuis le début finalement aussi de ce discours qui se construit autour de la pratique de l'usure. Dès le départ, elle est associée à un certain antisémitisme, on l'a dit, qui s'accentue de fait au cours des siècles, et ce d'autant plus que progressivement les Juifs vont pratiquer le prêt à la consommation. Là encore, on retrouve cette idée que prêter dans le cas de toutes petites affaires et de prêter pour des affaires qui, on va dire, ne vont pas porter l'économie ou en tout cas l'économie nationale, c'est d'autant plus condamnable, et ça va accentuer aussi ce lien entre usure et antisémitisme.
Oui, alors les Juifs sont des usuriers du fait qu'ils sont Juifs, puisque, comme on l'a dit depuis
c'est
le début de l'émission,
oui.
Voilà, les chrétiens, enfin le fait de ne pas être un bon chrétien, eh bien nécessairement on est un usurier. Mais effectivement, donc on a des Juifs qui pratiquent le prêt à intérêt et qui sont définis comme étant des usuriers. Mais il y a un cas assez intéressant, c'est celui de Bondavin de Draguignan au début du XIVe siècle, qui est un prêteur juif en Provence et qui est soumis à une enquête, à un procès, après une dénonciation. Et les témoins qui viennent témoigner en sa faveur, pour établir en tout cas sa bonne réputation, font valoir qu'il investit une partie de ses gains dans la production agricole, dans les chantiers navals et dans des opérations commerciales au long cours avec des marchands chrétiens. Et ce sont ces arguments qui sont retenus par le juge pour établir que Bondavin, bien qu'il soit juif, n'est pas un usurier. C'est-à-dire que on a là l'illustration parfaite du fait que réinvestir les profits du prêt à intérêt dans des opérations commune, pour la communauté, que sont le commerce, la banque, voilà. Cela distingue les profits du crédit de l'usure.
Et ce qui fait que l'un est beaucoup plus accepté que l'autre. Clément Lenoble, dans ce que vous dites, on a aussi une impression générale qu'il s'agit souvent d'affaires traitées au cas par cas, que ce sont des cas pratiques qui ensuite font peut-être l'objet de procès, mais que tout est un peu une question de jurisprudence. Est-ce que on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de doctrine en ce qui concerne l'usure? Il n'y a pas vraiment de règles auxquelles se référer? Il n'y a pas, de la même façon que les villes ont été largement rappelées à l'ordre quand elles ont tenté de mettre en place des taux fixes, on va dire, l'Église jamais n'établit une liste de critères qui permettrait de distinguer ce qui est acceptable en termes d'usure et de ce qui ne l'est pas.
C'est tout à fait cela. On n'a pas de doctrine, il n'y a pas de critères fixes. À partir de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, la plupart des auteurs s'entendent sur le fait que le réinvestissement est une condition indispensable. Mais chaque auteur, chaque théologien a une opinion un peu différente, nuancée sur la question. Et donc on a plus une sorte de rhétorique commune autour de l'échange plutôt qu'une doctrine établie par l'Église, une doctrine officielle. Ça n'existe pas.
Et c'est pour cela aussi, Valentina Toneato, qu'il n'y a pas vraiment un penseur de l'usure qui aurait fait date et qui aurait ensuite essaimé en termes de théorie. Et on ne peut pas attribuer finalement une vision spécifique de l'usure à un père de l'Église ou à un penseur en particulier.
Non, ça, on ne peut pas le dire. Il y a dans les temps, un langage des échanges, un langage du prêt-intérêt éventuellement, de l'usure, mais il n'y a pas un auteur plus qu'un autre qui donne des définitions qui sont valables pour toujours. C'est plutôt comment les historiens de l'économie aujourd'hui ont présenté les débats autour de l'économie au Moyen-Âge qui ont effectivement favorisé cette vision des choses comme quoi tel ou tel autre auteur du Moyen-Âge a découvert un principe économique ou à formaliser une doctrine sur l'usure ou autre chose. Donc c'est plutôt un biais contemporain, je dirais.
Alors je voudrais tout de même vous faire entendre un texte important. C'est un extrait du traité des contrats de Pierre de Jean Olivier qui date de 1293, ce qui nous donnera l'occasion, Valentina Toneato, de discuter de cette figure justement de Pierre de Jean Olivier. Mais tout de suite, on l'écoute.
On demande, en premier lieu, si les biens peuvent être vendus, licitement et sans péché, pour plus qu'ils ne valent ou être achetés moins cher. Il semble que oui, car autrement, presque toute la communauté de ceux qui vendent et qui achètent pécherait contre la justice, puisque presque tous veulent vendre cher et acheter à bas prix. En outre, il m'est licite d'attribuer à mon bien le prix que je veux, et aucun droit ne me force à donner ou à échanger mon bien, sinon pour un prix qui m'agrée et que j'ai fixé, de même qu'à l'inverse, personne n'est contraint d'acheter le bien d'autrui au-delà du prix qui lui agrée. Au premier argument de la première partie, il faut dire que ceci n'est vrai pas de la communauté des justes, mais seulement de la communauté des injustes et des avares. Le juste, en effet, ne veut rien vendre ou acheter qui soit contraire au juste prix, et celui qui est parfaitement juste ne veut pas qu'il y ait la moindre injustice. Mais celui qui n'est qu'imparfaitement juste ne veut pas pour lui-même d'une injustice qui prévaudrait sur la justice. Au deuxième argument, il faut dire que, bien que de droit, je ne sois pas tenu de vendre mon bien, toutefois dans l'acte ou le contrat de vente, je suis tenu d'observer la forme et la règle du droit et de la justice. Ainsi, dans l'acte de vendre, il ne m'est pas permis d'attribuer un prix injuste à mon bien et de le recevoir, car alors je ne l'attribue pas en tant qu'il est seulement mien, mais en tant qu'il est destiné à un échange avec autrui. Or, une telle attribution implique directement lors de l'échange, la réception d'un prix d'une valeur supérieure. Or, recevoir davantage comporte une inégalité.
Clément Lenoble, est-ce que finalement cette figure très importante aussi de Pierre de Jean Olivier est la preuve qu'il y a tout un essaim peut-être de penseurs de cette question de l'usure, mais aussi du juste prix et puis plus largement d'une morale économique peut-être. C'est vrai qu'on a tendance à mettre saint Thomas d'Aquin en première ligne et puis en faire une forme de précurseur, de pionnier peut-être de cette pensée-là, mais il était loin d'être le seul. C'est peut-être ce qu'on peut retenir aussi de cet extrait.
Oui, alors effectivement, Thomas d'Aquin a été, pour des raisons diverses qu'on n'a pas le temps de développer, retenu comme un peu un des précurseurs de la pensée économique moderne, alors que bizarrement, ses positions étaient plutôt conservatrices par rapport, et très, disons, prudentes par rapport à un Pierre de Jean Olivier, donc qui est franciscain, alors que Thomas d'Aquin était dominicain. Pierre de Jean Olivier qui écrit son traité 20-30 ans après la somme théologique de Thomas d'Aquin. Et l'extrait que vous avez passé, qui concerne la question du prix, n'est peut-être pas le plus moderne chez Olivier, mais en tout cas, il introduit, ce passage introduit ce problème de légalisation dans l'échange, qui est fondamental. Et au cours du XIIIe siècle, ces penseurs vont passer de l'idée d'une égalisation arithmétique, donc d'une justice presque mathématique, à une égalisation proportionnelle, géométrique. Et que ce soit le prix ou la capacité de ou la possibilité de percevoir un intérêt dans une opération de crédit, ces éléments vont se définir à l'intérieur d'une latitude, d'un espace dans lequel le curseur va se placer à des endroits différents selon le contexte, selon le statut des parties de l'échange, selon le lieu où on se trouve, etc.
Clément Lenoble, aujourd'hui, prêter avec intérêt est une pratique pour le moins courante, au moins dans les circuits officiels bancaires, à commencer par la Banque Centrale Européenne, tout le monde y est habitué. Quel héritage, que reste-t-il finalement de cette pensée de la moralisation du prêt telle qu'elle s'est développée au cours des premiers siècles, on va dire, de l'établissement de l'Église chrétienne? Est-ce qu'aujourd'hui encore on retrouve cette distinction entre ce qui relève de la sphère légale, des circuits, on va dire, officiels, et puis d'une condamnation peut-être des circuits moins officiels de l'argent?
Alors, ce qui est frappant, c'est que depuis le Moyen-Âge, tout le monde est pris dans des opérations de crédit, voire de prêt réciproque, et c'est comme ça que les théologiens pensent les échanges économiques. Donc, on a peut-être hérité déjà de cette conception-là. Ensuite, en 2008, en 2009, le Ettore Gotti Tedeschi, qui était le banquier du Vatican à l'époque, avait déclaré, suite à la crise des subprimes, que l'argent est le crottin du diable, mais ça dépend entre les mains de qui on le met, ça peut devenir un excellent fertilisant. Donc on voit bien que là, on hérite, ça pourrait être une citation de Saint Bernardin de Sienne, pardon, dont on n'a pas parlé, mais qui est un successeur d'Olivier. On voit bien qu'il y a là une distinction, justement, entre un circuit et des personnes qui sont en mesure de faire fructifier l'argent et ceux qui ne savent pas le faire.
Vous avez mentionné, Clément Lenoble, la crise de 2008. Ce qui est intéressant, Valentina Toneato, c'est que lors de cette crise, on a beaucoup accusé ceux qui s'étaient endettés, justement. On les a même accusés d'inconscience ou au mieux d'irrationalité, de ne pas avoir su anticiper le risque et voire même d'avoir fait basculer ce système de crédit, d'avoir été à l'origine de la crise des subprimes et de tout ce qui s'en est suivi. Finalement, on retrouve ce que vous nous disiez là pour, on va dire, l'époque de l'Antiquité tardive, cette idée qu'on a aucun problème à accuser ceux qui contractent ce crédit. Et il est peut-être plus compliqué de remonter aux origines de ceux qui, justement, profitent aussi de ce système-là.
Oui, bien sûr. On a parlé du fait d'accuser les riches de ne pas faire circuler la richesse, mais on n'a pas parlé de la culpabilisation des pauvres qui ne sont pas censés vouloir plus que ceux qui ne peuvent payer et qui doivent rester à leur place, à être, comme je disais tout à l'heure, selon Augustin, ceux qui ne font que permettre aux riches de gagner le paradis.
Valentina Toneato, est-ce que très rapidement, la crise de 2008 a été aussi l'occasion de renouveler peut-être l'intérêt aussi pour cette histoire de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge vis-à-vis de l'usure?
Je pense que oui. Après, c'est surtout toujours la fin du Moyen-Âge qui est remise à l'honneur. Et on a toujours un peu tendance à oublier que le Moyen-Âge ça ne commence pas avec Thomas d'Aquin, par exemple.
Merci. Mais... merci beaucoup à tous les deux, Valentina Toneato et Clément Lenoble, d'avoir participé à cette émission. Valentina Toneato, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les banquiers du Seigneur, et le titre de celui auquel vous avez participé, Clément Lenoble, Aux marges de l'hérésie, invention, forme et usage polémique de l'accusation d'hérésie au Moyen-Âge. Et tout ça, c'était aux presses universitaires de Rennes.